Avant d'écouter Henri Masson, le président de la CIMAD, qui va lire le texte qu'il a choisi et porter la prédication pour ce jour, nous nous rassemblons dans la prière. Éternel, parfois ton appel a du mal à percer dans nos vies et dans nos cœurs. Nous vivons dans tant de bruit et d'inquiétude. Nous n'entendons pas toujours ta parole de paix, de vie, de liberté, parole qui vient encore à travers ce vieux livre de la Bible. Paroles cachées au cœur du monde et au cœur de nous-mêmes. Que notre esprit s'ouvre à ton esprit qui fait souffler un vent libérateur et trace des chemins d'aventure et d'espérance sur lesquels Jésus le Christ a marché et où il nous invite à le suivre. Amen.
Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 15, les versets 21 à 28, Jésus a rencontré les pharisiens, s'est expliqué avec eux, et le texte nous dit, Jésus partit de là et se retira vers la région de Tyr et de Sidon. Une cananéenne venue de ce territoire se mit à crier « Compassion de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par un démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Ses disciples vinrent lui demander « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux moutons perdus de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui en disant « Seigneur, viens à mon secours !» Il répondit « Ce n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le jeter aux chiens. »« C'est vrai, Seigneur, » dit-elle. « D'ailleurs, les chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit « Femme, grande est ta foi. » qu'il t'advienne ce que tu veux. » Et dès ce moment même, sa fille fut guérie. La CIMAD, vous l'avez entendu tout à l'heure dans la bouche de Dominique Hernandez, et cela est inscrit dans le préambule de nos statuts, est une forme du service que les églises veulent rendre selon l'esprit de l'Évangile. C'est dire à la fois l'évidence et en même temps l'importance pour nous, bénévoles de ce mouvement, du témoignage que nous portons ici, dans ce temple, aujourd'hui, comme nous essayons de le faire dans d'autres paroisses protestantes. Que le conseil presbytéral du foyer de l'âme et votre pasteur, notre pasteur, Dominique Hernandez, soit très chaleureusement remercié de cette invitation. Comme elle nous l'a dit tout à l'heure, elle nous l'a rappelé, la CIMAD est un vieux mouvement. Et peu des premiers organisateurs imaginaient que 80 ans après sa création, elle existerait toujours. D'ailleurs, le déroulé de l'acronyme qui lui sert de nom est à mon avis un signe, comité intermouvement auprès des évacués, qui sait aujourd'hui ce qu'étaient ces évacués. C'était une magnifique dénomination technocratique avant l'heure, liée aux évacuations avant la Seconde Guerre mondiale des personnes habitant entre la frontière franco-allemande et la ligne Maginot. Et personne depuis n'a proposé de changer ces mots. Je devrais dire d'ailleurs, personne n'a osé. Cet acronyme est devenu courant, la CIMAD. Mais vous aurez remarqué, le comité a changé de genre et l'on parle non plus d'un CIMAD, mais de la CIMAD. Elle a accompagné l'histoire de notre pays depuis donc plus de 80 ans, comme celle d'autres pays particulièrement secoués, en Afrique ou en Amérique latine par exemple, en défendant souvent des positions difficiles à entendre, à exprimer, et des positions courageuses. Elle a montré du doigt quelques-unes des indignités de ce monde. Et c'est en s'inspirant de cette histoire qu'elle continue modestement aujourd'hui. Je cite les statuts, comme l'a fait tout à l'heure Dominique, à manifester une solidarité active avec les personnes opprimées et exploitées, et plus particulièrement les personnes réfugiées et migrantes. Le texte de l'évangile de Matthieu que nous venons de lire est le récit d'une rencontre inattendue entre Jésus et une étrangère. Ce récit est manifestement important puisqu'il est repris dans l'évangile de Marc sans grande différence. On ne sait pas bien ce que Jésus allait faire à Tyr et à Sidon. Il s'agit de villes de la Phénicie, c'est-à-dire de l'actuel Sud-Liban. Mais c'est un territoire étranger et païen. Marc précise d'ailleurs que Jésus y allait incognito. Peut-être souhaitait-il simplement se reposer de la foule. Comme je le disais moi-même avant la lecture, les deux évangiles nous rapportent en effet avant cette rencontre que Jésus a un échange assez musclé avec les pharisiens au sujet du respect des traditions et des rites alimentaires dans la religion juive en particulier. Et voilà qu'une femme vient demander à Jésus de sauver sa fille malade. On peut imaginer qu'elle s'est confiée à de nombreux thérapeutes ou guérisseurs et qui n'ont pas su protéger l'enfant du démon qui la tourmente. Elle a dû entendre parler de ce Jésus qui faisait des miracles, et elle provoque cette rencontre qui est peut-être pour elle, comme pour sa fille, celle de la dernière chance. Et elle y met la détermination, l'obstination de tout parent confronté à la maladie de son enfant et qui cherche sans relâche la voie de la guérison. Elle se heurte au refus de Jésus, de l'écouter. Elle se heurte à la condescendance des disciples qui ne savent d'ailleurs pas comment s'en débarrasser et demande à Jésus de régler le problème. Renvoie-la ! Jésus, pour cela, assène une vérité, sa vérité, à cette femme douloureuse qui dérange, « Je ne suis pas venu pour toi, cesse de nous embêter et passe ton chemin. » Mais coup de théâtre, il va quand même l'écouter, il est convaincu et il répond favorablement à sa demande. « Femme, ta foi est grande, qu'il t'arrive comme tu le veux. » Cette histoire a inspiré de très nombreux peintres, en particulier au XVIIe et au XVIIIe siècle. Et dans la plupart des cas, ils ont eu pas mal de difficultés à représenter la totalité de l'histoire, ces deux temps opposés qui ne peuvent se comprendre l'un sans l'autre. Ils n'en retiendront souvent que la conclusion de l'histoire, la guérison de la jeune cananéenne, le miracle. Et cela donne lieu, comme on peut le voir dans la chapelle du Val-de-Grâce ou dans quelques musées parisiens ou ailleurs, cela donne lieu à une débauche de tissus somptueux, de couleurs plus éclatantes les unes que les autres, avec au centre un Jésus majestueusement campé et tendant la guérison à une mère infiniment reconnaissante. L'affaire, vous l'avez compris, est bien plus complexe. Deux siècles auparavant, un miniaturiste se saisissait de cette même histoire pour l'illustrer dans une page complète des très riches heures du duc de Berry. Et là, dans une forme de fidélité au texte des évangiles, il choisit de représenter la totalité de l'histoire en séparant sa feuille en deux parties. Dans les deux tiers supérieurs, une femme suppliante est agenouillée devant Jésus qui lui tourne le dos. Femme que les disciples regardent avec hauteur. À droite de la femme, on voit une maison dans laquelle une jeune fille est allongée sur un lit. Et dans le dernier tiers, au bas de la feuille, tout a changé. Jésus est tourné vers la femme, penché avec attention vers elle, l'écoutant et lui annonçant sans doute la guérison de sa fille. Les disciples, eux aussi, adoptent une attitude plus avenante. Quant à la place et dans le positionnement de la feuille, le miniaturiste a donc attaché plus d'importance à la première période de la rencontre qu'au miracle lui-même. Cette représentation, vous l'aurez compris, me fascine plus que les autres. Le simple trait horizontal séparant les deux miniatures illustre le changement radical d'attitude de Jésus. En vérité, pour être tout à fait précis, ce trait n'est pas tout à fait horizontal et il inclut un passage du psaume 25, mais qui était l'introïte de la messe qui était célébrée pour ce jour et donc n'a pas de lien avec l'illustration dont je parle. Cette volte-face est donc au cœur de notre histoire et elle nous saisit, elle nous interroge. Comment est-elle possible ? Comment cette femme, une étrangère, une païenne, a-t-elle réussi à convaincre Jésus ? Ce n'est évidemment pas la première fois qu'il rencontre une personne étrangère, mais se noue avec cette femme une relation extraordinaire. Au moment où Jésus se retourne vers elle pour la chasser à la demande des disciples, il n'a évidemment pas l'intention de l'écouter. « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais cette mère est tenace. Bien que tout joue contre elle, sa détermination, nourrie de la certitude que Jésus peut guérir sa fille, va lui donner la force d'affronter Jésus dans un magnifique dialogue autour de quelques miettes de pain. Jésus cherche à la dissuader en la culpabilisant, l'accusant, elle, l'étrangère, de vouloir profiter du pain réservé aux enfants d'Israël. Est-ce pour l'éprouver ? Peut-être, peut-être pas. Nous sommes loin, en tout cas, des images à la fois pompeuses, sucrées, doucereuses d'un Jésus distribuant ici des bénédictions et faisant là quelques miracles. Non, l'homme incomparable, comme l'appellera Renan, dans une célèbre conférence au Collège de France, qui amènera d'ailleurs Renan à abandonner sa chaire, l'homme incomparable tourne ici le dos à une mère blessée et malheureuse sans un instant l'écouter. Quand il lui parle, c'est pour la renvoyer à ses origines d'étrangère, de païenne, et l'écarter de la table. Et la cananéenne, au lieu d'abandonner ou de répondre avec agressivité, décide avec à propos de rappeler calmement à Jésus une évidence de la vie quotidienne, à savoir que des miettes de pain tombent toujours de la table des maîtres, quand ce ne sont pas les petits-enfants eux-mêmes qui donnent un morceau de pain aux petits chiens qui traînent sous la table. « Oui, dit cette femme, j'ai compris que tu n'es pas venu pour les petits chiens comme moi, mais quelles que soient nos différences, je te rappelle que je fais partie de la même humanité que les brebis d'Israël. Je me contenterai volontiers des miettes qui tombent de la table, mais je revendique le droit de m'en saisir. » Et Jésus de répondre, « Femme, ta foi est grande, qu'il t'arrive comme tu le veux. » Et sa fille fut guérie dans l'instant et à distance. La volte-face de Jésus est fondamentale, plus peut-être que le miracle lui-même, pourtant si important pour cette mère et sa fille. Rien ne rapprochait Jésus et la cananéenne, tous les séparaient. Le premier contact fut rude, mais l'intelligence et la détermination de cette femme, entrant dans le raisonnement de Jésus et le retournant à son profit, retournant son argumentation, va provoquer le total changement d'attitude. Jésus est mis en difficulté devant ses disciples, et qui plus est, par une étrangère. Il l'accepte, il le reconnaît. Sa mission ne s'arrêtera donc pas aux seules brebis perdues de la maison d'Israël. Toute l'humanité est concernée. Faite de la même chair, du même sang, traversée par les mêmes émotions, l'humanité tout entière arrive unie et s'invite au repas pour partager le même pain. Personne ne prend la part d'un autre, il y en aura assez pour tous. Quelles que soient nos différences, réelles ou supposées, l'humanité est un tout et on ne peut en exclure une partie au nom d'on ne sait quelles règles et quels principes. Ce que nous dit aussi ce texte, c'est que si, comme Jésus, nous tournons de temps à autre le dos à l'étranger que nous croisons, nous ne le reconnaissons pas immédiatement comme un frère, ce n'est pas si grave. Tant que nous acceptons de revenir sur nos pas, d'écouter cet étranger et d'accepter de se laisser bouleverser et transformer par cette rencontre. Ce que nous dit peut-être aussi ce texte, c'est de cesser de montrer du doigt tous ceux qui aujourd'hui refusent d'accueillir l'étranger comme un des nôtres, mais bien au contraire d'aller vers eux. D'aller vers eux pour les écouter, pour leur parler et leur montrer avec la calme assurance de la Cananéenne que la table est assez grande et le pain en quantité pour y accueillir quelques réprouvés de la terre qui frappent à la porte. C'est là le rôle de la Cimade, que d'aller, plus encore qu'aujourd'hui, d'aller vers tous ceux qui ne partagent pas ses aspirations et même les combattent. C'est son rôle que de rappeler, d'affirmer, avec d'autres bien sûr, et à sa mesure, l'égalité de dignité entre nous tous, l'identité de droit entre nous tous, et cela, qui que nous soyons, d'où que nous venions, quel que soit notre parcours. C'est aussi de lutter sans relâche contre toutes les formes de racisme et de xénophobie. Vous pourrez lire en particulier sur le site du Monde, ce week-end, une tribune que nous avons signée, Fanélie Carré-Comte, notre secrétaire générale, et moi-même, pour rappeler aux futurs élus de la nation pour lesquels nous sommes invités à voter aujourd'hui, pour leur rappeler quelques-unes de nos demandes. Une réelle protection de tous les enfants étrangers, la régularisation large, durable, des personnes aujourd'hui sans titre de séjour, alors qu'elles séjournent parfois sur notre territoire depuis plus de 10 ans. Un accueil digne à nos frontières, qu'il s'agisse des frontières dans les Alpes ou dans les Pyrénées, ou plus encore sur le littoral de la Manche. Mission ardue qui génère parfois chez les équipiers, comme nous nous appelons, un découragement face à l'ampleur de la tâche, face à l'incompréhension d'une partie du monde politique et des pouvoirs publics, mais aussi parfois une radicalité dans notre manière de nous présenter, de nous exprimer, radicalité qui nous est un peu reprochée et qui peut choquer, mais qui n'est que l'expression de l'urgence que nous ressentons de voir apparaître enfin un monde plus solidaire, plus humain, plus fraternel. N'oublions pas la calme détermination de la Cananéenne face à Jésus. N'oublions pas le revirement essentiel de Jésus face à elle. Acceptons cette rencontre comme une espérance et vivons-la comme la promesse d'un changement. Et cette promesse, elle ne s'adresse pas seulement aux équipiers de la Cimade et aux personnes que nous accompagnons. Elle s'adresse à nous toutes et à nous tous. Dans une société fragilisée, où la confrontation est plus fréquente que le dialogue attentif et posé, notre responsabilité de citoyens engagés comme nous le sommes ici, toutes et tous, c'est de créer, de renforcer ces liens si nécessaires entre nous pour bien vivre ensemble. De renforcer, de créer ces fraternités heureuses, ouvertes, généreuses, et non pas comme certaines, fermées et qui excluent. Oui, avec la Simade, nous pouvons dire qu'il n'y a pas d'étranger sur cette terre. Avec la Cananéenne, soyons dans l'espérance. Femme, ta foi t'a sauvée, qu'il t'arrive comme tu le veux. Amen.